Ce que je tiens de mon père, vous avez commencé à faire une liste, Sébastien Barrier.
Oui, en quelques instants. Sa faconde, son humour, j'ai précisé entre parenthèses en mieux, mais il s'agit de rien. Il s'agit de transformer forcément ce qu'on hérite de nos parents.
Il faut dire que Claude Barrier, votre père, est à côté. A fait sa propre liste, mais est à côté de vous.
Tout à fait, je ne me permettrai pas de railler son humour en dehors de sa présence physique. J'ai mis son côté éducateur spécialisé, peut-être que j'en ai gardé un peu. Son côté curé, peut-être en parlerons-nous qu'il aurait dû être. Son grand nez, sa minceur, sa mélancolie, j'ai mis un point d'interrogation. Le prénom de mon fils, parce que je me suis toujours dit depuis que je suis jeune adulte que mon fils porterait le nom de son père, qui est Abel. Mais comme je ne suis pas encore père, il y a un point d'interrogation. Le militantisme. Car mon père fut très militant, moi je ne le suis plus ou plus assez, mais je l'ai été, et peut-être que quand je l'ai été, ça a été transmis par ses gènes. Je tiens de mon père, mon frère, et puis l'excitation. Il m'arrive parfois d'être excité, et mon père est un grand excité.
Claude Barrier, vous avez fait la liste de ce que vous tenez de votre père Abel.
Oui, j'ai commencé par mettre sa forte présence. Présence-absence, puisqu'il est parti trop tôt, j'avais 11 ans quand mon père est mort, sous mes yeux un soir, alors que dans notre tête, ce n'était pas imaginable. Sa générosité, son ouverture aux autres, une présence tranquille, je dis un peu mon père ce héros, parce qu'il a, c'est une figure mythique pour nous, ses 8 enfants. Mythique en ce sens qu'il y avait des histoires de famille du côté de chez ma mère, qui n'avait rien à voir avec ma mère, mais entre ses frères et sœurs. Et que pour éviter que ça se reproduise pour nous, après mai 68, où on était 8 gamins, si on avait été dans la même ville, on se serait tapé sur la figure, on a trouvé le moyen de gérer ça autrement. Et je suis devenu médiateur parce que j'ai été mariné dans tout ça. Voilà. Sa générosité, parce que c'était quelqu'un qui était ouvert aux autres, on était agriculteur depuis des générations, et à côté il y avait une carrière, et notamment pendant la guerre, les gens ne travaillaient pas. Et je crois que mes parents, qui avaient des ressources agricoles, ont partagé ce qu'ils avaient avec les gens, là. Puis une présence tranquille. Et il a une figure de mon père, on dit mon père ce héros, on l'a mythifié, notre père. Il est mort, on était tous assez jeunes. Et on a une figure mythique qui a fait qu'on a fait des choix, malgré nos choix politiques différents, de cohésion familiale, parce que par rapport à notre père, ni les uns ni les autres, quelles que soient nos opinions, des fois qu'elle tranchait, on pouvait se permettre de se taper dessus, ou on est frères et sœurs, la vie nous a fait comme ça, et ça c'est des valeurs fondamentales, même si après chacun mène sa vie. Voilà.
Il s'est passé comment le voyage en camion de chez vous à la radio, Sébastien et Claude Barry? Est-ce qu'il y a eu des silences, ou est-ce que vous avez beaucoup parlé?
On a beaucoup parlé, les rares silences ont été interrompus par la présence de mon chat, qui voyage toujours avec moi, et qui miaule parfois pour dire, il me semble, sa lassitude de la route, mais il finit toujours, quand on dépasse une certaine vitesse, par aller sous le siège et par se taire. On a parlé de moi, beaucoup de questions qui me travaillent, et puis on a parlé aussi beaucoup de mon père, et je l'ai beaucoup écouté. Un voyage en camion, c'est toujours un sas, c'est une cabine qui se déplace, c'est un moment privilégié pour converser, et on n'a pas souvent l'occasion, mon père et moi, de le faire. Donc le voyage en camion s'est très bien passé.
Vous avez beaucoup parlé?
J'ai besoin sans doute de transmettre, j'aime raconter des histoires et j'aime quand mon fils en raconte aussi. Et oui, c'est un moment de bonheur avec moi de partager des moments comme ça, enfin, c'est chouette, ça me plaît bien.
Je pense que les intellectuels et les artistes, tout le monde le sait, aiment spécialement les chats. Oui. Pourquoi vous avez l'air d'en douter? Regardez Baudelaire, tous les autres, c'était vraiment, ils avaient l'amour du chat. Non, il y a une manière de comprendre cette beauté-là, cette perfection sur Terre. Il faut une énorme patience. Il faut la patience de vivre. Et ça, les chats ont cette patience de vivre. Cette longue attente comme ça. Des jours qui se suivent. Et qui se ressemblent. Puisqu'ils dépendent de vous. C'est vous qui faites vos jours, et les chats, c'est la même chose.
Il est 23h, un chat entre dans nos vies. Alors, c'est nous qui sommes écoutés. On commence à vivre avec un témoin. Il est là comme une évidence. Son regard rend nos agitations un peu plus étranges qu'avant. Dans le spectacle de Sébastien Barrier, le chat s'appelle Gus. Il a le silence et l'immobilité qu'on n'a pas. Il a l'indépendance qu'on n'a pas. Il a la patience de vivre qu'on tente d'avoir. Le chat a des réponses à nos questions même pas posées. Il est profondément là et à côté quand on ne l'est qu'à moitié, ça se voit. Mais Gus est mélancolique, il s'est retrouvé entouré d'humains et ils ne sont pas forcément rassurants. Le chat ne comprend pas pourquoi celui qu'il a choisi est un être humain aussi fragile et seul que lui. Parfois, Gus sort les griffes parce qu'il est mal ou trop aimé, parce qu'on compte trop sur lui et qu'il n'a rien demandé. Sébastien Barrier, dans nos vies, c'est cet animal qui nous observe mais qui a la parole et qui ne se prive pas de nous l'adresser. C'est l'équivalent d'un regard de chat qui traque nos solitudes, qui les pose là, devant nous, qui s'adresse directement à chacune de nos agitations. C'est un exercice de consolation. Sébastien Barrier entre dans nos vies. Alors, nous sommes écoutés. On vit avec un témoin. Il est là comme une évidence et le temps qui passe n'a plus le même poids. Comme dans les yeux du chat, on oublie quelques instants que la vie finira. Il y aura donc Sébastien Barrier qui reprend son spectacle Gus au Théâtre du Montfort à Paris du 12 au 23 février avant une tournée en mars à Loos-en-Goël, Douai et en avril à la scène nationale de Sénart. Il y aura en studio son père Claude Barrier qui a vu Gus à peu près 5 fois. À la musique, Sabine Appart, la souterraine a mis en ligne Jungle. Sabine Appart chante Ronsard, 8 poèmes mis en musique. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par les yeux d'un chat.
On ne décide pas d'avoir un chat. Y a un chat qui entre dans votre vie et c'est tout. Je veux dire par là, j'ai toujours aimé les chats. Je me demande même si je n'ai pas été un chat moi-même. C'est pour ça que j'ai des rapports exceptionnels avec Tifauge, parce qu'il sait des tas de choses sur moi. Que je sais de lui aussi, il y a une sorte de jugement implicite comme ça qui fait que nous avons des rapports extrêmement profonds, des rapports historiques ou des rapports préhistoriques, parce que je crois que nous avons eu tous les deux des vies antérieures. Ce chat m'écoute, ce chat m'observe, je n'habite pas chez moi, j'habite chez lui. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui commande tout, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui organise les ébats, si ébats il y a. C'est lui qui aussi inspecte, c'est lui qui me console si je dois être consolé, ou c'est lui qui me rabroue s'il me trouve faussement de bonne humeur. Car ça m'arrive, on prétend que je suis cyniste, mais je suis quelqu'un d'extrêmement drôle. Les chats n'aiment pas l'humour, l'humour bruyant. Ils aiment l'humour musical, enfin, je veux dire l'humour vrai, l'humour humain.
Et une relation avec un chat, est-ce que ça se construit comme avec un être humain, à votre avis ?
Je vous dis, on peut tout dire sur les chats. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un qui aime un chat parle d'un chat, on se dit, cette personne invente le chat. En réalité, je crois que c'est le chat qui nous invente. Il nous invente continuellement. Il a une capacité de présence et un sens de l'indépendance qui est rare chez l'être humain. Et je peux dire, sans aucune ironie, sans aucune amertume, sans aucune rancœur, pour employer un mot que j'ai l'impression de créer, je vais le dire avec surcœur, je crois qu'il y a une possibilité de rapport durable avec le chat, qui n'est peut-être pas, hélas, très possible avec un être humain dans la vie.
Sébastien Barrier, comment ça entre dans une vie, un chat? Comment c'est entré dans votre vie?
Voilà, la réponse va être plus simple du coup et moins longue. Par effraction, évidemment, par surprise, par piège, par nécessité mutuelle, j'imagine, pour parler de mon chat ou du chat dont je suis l'humain, ce qui me semble peut-être plus juste comme façon de qualifier notre relation. Et notre statut l'un pour l'autre, il errait dans une rue de Calais qui s'appelle la rue du Temple, alors que nous étions là-bas avec deux amis travaillant sur la création d'un spectacle. Et il était tout petit, tout sale et tout seul. Et il a miaulé en me regardant et j'ai pris ça pour un appel au secours. Peut-être que c'était une réaction un peu gonflée d'orgueil, peut-être qu'il n'avait pas besoin de moi à ce point. En tout cas, je l'ai ramassé, puis reposé, puis ramassé, puis reposé, puis je l'ai gardé après avoir tenté de m'en défaire. D'ailleurs, j'ai essayé de le fourguer aux gens qui travaillaient dans le théâtre dans lequel nous travaillions nous-mêmes. Et puis personne n'en a voulu. Et après 15 jours de résidence dans ce théâtre qui s'appelle le Chanel à Calais, et voilà, 15 jours ont suffi pour que je m'attache à cette petite bête qui a fini par partager ma vie et qui la partage maintenant depuis 4 ans, 4 ans d'incessantes tournées. Donc, comme autant d'occasions de l'égarer, puisque je le laisse en liberté partout où je vais.
Il est où là en ce moment?
Ben là, il est autour de du bar et de la cabane du Montfort, en train de batifoler et de braconner, j'imagine, dans le parc Georges Brassens. Mais l'endroit porte un nom idéal pour qu'on y braconne. Mais je le laisse en relative liberté, puis quand je reviens, je siffle et puis on fait un petit point. Et puis il poursuit sa vie et je poursuis la mienne.
Ça commence par un abandon? Comme pour Gus dans la pièce.
Mais dans la pièce, ce qui est, j'allais dire intéressant, mais ce serait, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est que cette pièce, je l'ai créée avec un guitariste qui s'appelle Nicolas Lafourest, dont je me suis séparé avec pertes et fracas en cours de route, en cours de chemin, parce que les amitiés ne sont pas éternelles. Celle-là, en tout cas, ne l'était pas, ou en tout cas, disons qu'elle est manifestement en suspens. Pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, qui d'ailleurs ne sont pas selon lui et selon moi les mêmes. Mais toujours est-il que quand on a décidé de faire un spectacle qui s'adresserait aux enfants, on a assez vite décidé de parler de chat, puisque Nicolas vit avec un chat lui aussi, et qu'il a un rapport, il entretient un rapport très très proche à cet animal, mais un rapport un peu étrange. Un peu tel celui qu'on vient d'entendre décrit dans la bouche de ce monsieur dont j'ai oublié le nom.
Yves Navarre.
Voilà, Yves Navarre, qui parle très bien aussi de son rapport à son chat, mais qui est très différent de celui que j'entretiens au mien et vice-versa. Et plutôt que de faire le portrait de mon chat, qui s'appelle Oui Oui, et qui est un chat plutôt équilibré, on s'est dit qu'on allait faire le portrait du sien, qui s'appelle Gus, et qui est un chat plutôt déséquilibré. Et alors le point commun qu'il a avec Oui Oui, c'est qu'il a été lui aussi abandonné, mais carrément dans les poubelles d'un cinéma d'art et d'essai, dans lequel Nicolas travaillait et dans lesquels il a fini un dimanche matin par le découvrir. Et donc on s'est dit qu'en matière de héros, pour compter un chat héroïque aux enfants, on préférait un chat boiteux, bancal, abîmé, souffrant, plaintif, agressif, dangereux, névrosé, maniaco-dépressif et j'en passe, plutôt qu'un chat comme le mien qui va plutôt bien. Et c'est comme ça que nous avons commencé à parler de chats.
Et vos histoires, Sébastien Barrier, elles existent vraiment dans l'adresse que vous avez quand vous les racontez. C'est quoi la différence de là, de parler à des enfants?
C'est peut-être une adresse qui demande plus d'énergie. Parce qu'on est aujourd'hui sur un spectacle qui dure peut-être 1h20, qui est assez dense, même si les musiques de Nicolas sont restées après son départ. On entend encore les musiques que Nicolas joue à la guitare électrique, mais c'est quand même un spectacle dense, plein de textes. Donc il faut garder leur attention, c'est pas une prise d'otage, hein. Il faut les intéresser. Donc j'essaye d'osciller entre l'humour, tous les passages qui traitent de la mélancolie, tous les passages qui peut-être provoquent des émotions. Et puis j'essaie de leur parler d'eux, de leur parler à eux, de leur parler dans les yeux. On a joué ce spectacle une centaine de fois, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la confiance dans ce spectacle, et quand je l'avais pas, j'ai vu des milliers d'enfants s'ennuyer, et je vois très bien maintenant à quoi ça ressemble, parce que moi je les vois en fait, puisqu'ils sont éclairés à plusieurs reprises, je leur parle, et quand ils s'ennuient, ils le cachent pas du tout, parce qu'ils savent pas qu'il faut le cacher. Donc j'en ai vu s'ennuyer, puis maintenant je sais reconnaître ceux qui s'ennuient de ceux qui écoutent, et j'ai plaisir maintenant le plus souvent à les voir écouter et recevoir et ingérer ce récit, à sursauter, parce qu'il y a plein d'artifices au plateau assez simples mais qui ne font qu'éclater pendant tout le spectacle, donc ça les empêche de dormir, ça les surprend, ça leur fait peur. C'est une adresse différente. Et puis après, j'ai souvent à composer avec des salles qui sont faites d'un public mixte, avec des adultes et des enfants. Et là, c'est encore une autre gamme qu'il faut explorer.
Et quand vous regardez Claude Barrier, votre père qui vient voir Gus, il est comment dans le public ?
Il est caché. Non, il n'est pas caché, mais il est là. Je sais qu'il est là. J'ai joué au Mans au mois de décembre. Je jouais 5 fois. Ils sont venus, ma mère et mon père, 5 fois. En me demandant chaque jour poliment et un peu gêné s'ils pouvaient éventuellement revenir le lendemain. Alors ça m'a étonné parce qu'ils ont vu tous mes spectacles, mais ils sont jamais venus voir l'intégralité d'une série que je présentais au Mans ou ailleurs. Et cette fois-ci, ils sont venus 5 fois. Alors au bout de 5 fois, j'avais peur de parce que moi j'essaye à chaque spectacle de changer un peu le texte, de surprendre ne serait-ce que mes amis en régie, Elodie et Jérôme, ne serait-ce que pour eux, j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu différent chaque jour pour les surprendre eux. Donc quand il est là, bah, c'est plus émouvant pour moi, c'est plus chargé, surtout pour un spectacle qui évoque quand même la question de la paternité, la question de l'enfant, de l'enfance cabossée, de mon père. Et on le disait en début d'émission, de mon père fut sinon un spécialiste, au moins un observateur privilégié. Donc voilà, quand il est là, c'est forcément différent, c'est rassurant à la fois.
Il se passe quoi quand on voit 5 fois le spectacle, Claude Barrier ?
Eh bien, je crois qu'on se l'est dit avec Marie-Claire, donc sa maman. C'est toujours un peu différent. Enfin, ce que je t'ai dit, ce qu'on t'a dit, je crois, c'est que il y a du corps, il y a de la matière, il y a de l'épaisseur, il y a du sensible. Moi, j'ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir et d'intérêt et découvert des choses nouvelles à chaque fois. Et je pense que les spectateurs qui étaient là pour ce que j'en ai vu aussi ont été accrochés par ceci ou par cela, et c'est pas une bluette, c'est pas qu'une fable. Enfin, il y a une épaisseur humaine qui me plaît bien, et ben, je suis peut-être aussi un petit peu content de voir que tu peux que notre fils peut faire ressentir cela à un public, et je trouve que c'est beau ça. Voilà ce que j'en pense.
Et la particularité de Gus, comme vous le disiez, Sébastien Barrier, c'est que c'est un chat mélancolique, qu'il est pas, il est un peu, il refuse de sortir, il attaque le facteur, il est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le chat qu'on imagine, qui attend sagement et qui a envie de ronronner quand on rentre. Il mange ses poils pour montrer qu'il est bien déprimé. C'est quoi cette mélancolie qui traverse Gus? Elle vient d'où?
C'est compliqué d'identifier précisément la source de cette mélancolie. L'autre jour, il y a un directeur de théâtre qui a vu le spectacle en septembre à Toulouse et qui m'a dit qu'il y a un problème d'adresse. Ça voulait dire, selon lui, qu'on ne savait pas qui parle. Il se trouve que c'est un soir où moi j'étais en perte totale de confiance, donc je pense que le problème d'adresse c'est peut-être avéré beaucoup plus visible ce soir-là, ou est devenu un problème. Parce que je crois que la question de l'adresse tournante, je pense pas que ça doive être un problème. Moi-même, parfois dans le spectacle, je sais plus qui parle. J'essaye de pas mettre toute ma mélancolie au service de ce personnage de Félidé. J'essaye surtout de pas balancer à des gamins en pleine poire mon état dépressif passager. On a travaillé avec Nicolas. Moi, j'écrivais des textes. Nicolas faisait des musiques. Forcément, les textes sont complètement influencés. Et ça n'est pas Sabine qu'on va entendre jouer tout à l'heure qui, j'imagine, dira le contraire. Mais les textes sont complètement... La manière de dire un texte, pour moi, est complètement bousculée, chamboulée, bouleversée par la musique qui va l'accompagner. Donc, est-ce que ça ne serait pas le caractère mélancolique de la musique de Nicolas qui aurait fini par donner cette couleur au spectacle? Est-ce que c'est ma propre mélancolie? Est-ce que c'est un peu celle de mon père? Pourquoi Gus, ce chat dans la vraie vie, c'est-à-dire le chat de Nicolas, pourquoi est-il si particulier? C'est sans doute aussi parce qu'il a vécu 10 ans avec son maître. Donc d'où vient l'origine de cette mélancolie? c'est difficile à dire. En tout cas, comme mon père dit de manière peut-être un peu mayonnaise et très, très mignonne, c'est pas une bluette, ça veut dire c'est pas un conte guimauve, quoi, ou bourré de guimauve. On avait envie de s'adresser aux enfants avec des problèmes dont on espère qu'ils n'auront pas à les traverser, autrement dit ces problèmes de mélancolie, de dépression, de tristesse passagère, mais c'était des questions qui étaient récurrentes dans nos histoires à Nicolas et à moi. Donc on s'est dit, on va leur parler de ça, on va leur parler de ce mal-être qui parfois nous habite et à travers la figure d'un chat. Alors j'aurais pas édulcoré le propos en disant, mais rassurez-vous, on rigole aussi, mais ceci dit, rassurez-vous, on rigole aussi.
Et est-ce que vous avez la même façon d'être mélancolique tous les deux?
Mon père et moi?
La mélancolie, en termes plus ou moins médical, je connaissais pas. Elle m'est tombée dessus un après-midi en sortant d'un film, je me souviens plus...
La famille Bélier,
qui se passe d'ailleurs en Mayenne, dont je suis originaire. Et je suis parti au cinéma très bien. Et en sortant, j'ai téléphoné à Marie-Claire, ma femme, pour lui dire, je décompense complètement. Alors bon, ça m'est tombé dessus. Et j'ai dû faire avec, et sérieusement. Mais d'abord, j'ai eu la chance de pouvoir l'identifier. Bon, je me suis occupé d'enfants en situation de détresse et de ces choses-là. Et je dirais que j'ai eu la chance pour moi de ne pas dire que ça n'arrive qu'aux autres. Mais je pensais bien que ça arrivait surtout aux autres et que ça m'arriverait sur... Enfin, j'avais pas idée que ça pouvait m'atteindre. Hein. Alors, cette mélancolie m'a saisi comme ça. Je sais pas comment toi elle est venue, mais moi, enfin, je sais aussi que je t'ai fait et j'ai fait à mon entourage un drôle de choc. Enfin, c'était pas là non plus une bluette, c'était pas de la rigolade. Et se reconnaître atteint d'une affection mentale et devoir prendre les moyens de me protéger de moi-même, ça a été... je dirais un parcours d'humilité, humanité pour moi aussi. Ces affaires-là, si on n'en meurt pas tout de suite, on peut peut-être en faire quelque chose, mais on fait comme on peut. Mais enfin, quand on a un entourage aussi qui est plus que bienveillant, et puis que, effectivement, on peut reconnaître pour soi et pas penser qu'on est le cador le plus costaud du monde, ça peut aider. Humilité, humanité. Et je crois que ça m'a humanisé. Si j'avais peut-être encore besoin de l'être un peu plus.
Sébastien Barrier.
Eh bien, moi, j'ai eu la chance de ne pas voir La famille Bélier. Donc, je m'apprête à le faire. Il faut absolument que je regarde ce film.
Ça a l'air dangereux.
Ça a l'air dangereux, oui. Pourtant, l'affiche a l'air un peu innocente. Et en plus, ce qui est drôle, si j'ose dire, c'est que ça a été tourné en Mayenne, autrement dit, dans le pays natal de mon père et de sa famille.
Mais pourtant, à la fin, elle chante, tout va bien.
Oui, mais tout va bien. Ouais. Moi, j'allais tout à fait bien jusqu'à 10 minutes avant la fin. Et j'ai décompensé. M'a fallu un grand travail pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait.
Moi, c'est plus diffus. Plus diffus que ça. Voilà, c'est plus diffus. C'est plus en oscillation, en courbe, en aller-retour, en ping-pong, en pics et en creux. Etc, etc, mais c'est plus diffus, ouais.
Gus, le chat, dans le spectacle, il écrit à sa mère des lettres, et c'est une façon aussi de rendre compte du comportement des humains qui l'entourent, et qui trouve assez... pas en très bonne santé parfois aussi, ou en tout cas un peu seul, un peu bancal, un peu... Et il a l'impression que ça va pas forcément l'aider lui. Il comprend pas vraiment ce lien dont les humains ont besoin.
Gus, il se sent à plusieurs reprises surchargé d'amour, surinvesti presque, surresponsabilisé.
Comme s'il devait tout consoler.
Comme s'il devait absolument tout consoler. Dans une des lettres qu'il écrit à sa mère, il dit « Il semble tellement compter sur moi, autant il semble tellement attendre de moi en parlant de son humain ». Mais c'est comme si l'amour dont lui témoigne son humain était trop lourd à porter. Et dans la petite note d'attention que j'avais rédigée un an ou deux avant que le spectacle ne soit créé, j'avais posé cette question qui était, est-ce qu'on peut souffrir d'être trop aimé? Qui est une question un peu... Il y a tellement de gens qui manquent d'amour que la question est presque... Pour eux, pourrait paraître presque insultante. Mais moi, ça me plaisait de la poser. Il y a tout un... À propos, le mot est un peu fort, mais il y a à la fin une petite histoire, je ne vais pas trop en dévoiler, mais qui parle de castration. C'est-à-dire que Gus comprend que son humain est sur le point de le faire opérer, de lui retirer une part de lui-même pour le garder, donc de le faire souffrir pour le garder. Alors bien sûr, la métaphore est un peu facile par rapport à l'amour que les parents portent à leurs enfants. Et jusqu'à quelles extrémités comportementales ça pourrait les conduire, mais tout cet amour l'encombre, il le dit. J'ai besoin qu'on m'aime, et puis dès qu'on m'aime, je me sens comme encombré, comme attaché, c'est comme si on me mettait une laisse. Et puis il observe que les humains autour de lui ne vont pas bien. Ils vont pas bien, il les trouve évolués, mais il trouve qu'ils pataugent, qu'ils stressent, qu'ils s'enlisent, et il finira par s'en défaire, par s'épanouir évidemment, par s'autonomiser, enfin.
On va écouter la voix de Colette qui parle de son chat, c'est en 1948.
Celle-là s'appelait Péronnelle d'abord, mais après ça, à cause de la parole de chatte qu'elle disait si volontiers, elle s'est appelée, je ne sais pas si on l'entendra dans le micro, elle s'appelait Prrr. Je ne sais pas si on l'entendra. C'est une magnifique créature, je l'avais ramassée là-bas, à la campagne, là-bas, en Franche-Comté, je l'avais ramassée proprement mourante de faim, et puis... Je l'avais rendue très bien nourrie et très belle, et je n'avais pas eu besoin de la forcer à être très intelligente, elle l'était de naissance. Et alors j'ai dû laisser ma chatte auprès de ma mère, elle aimait beaucoup ma mère aimait beaucoup la chatte. Et puis une fois, en cours de tournée, je suis revenue chez ma mère et j'ai retrouvé la chatte que je n'avais pas vue depuis près d'un an. Alors la chatte m'a reconnue et elle m'a malheureusement... réadoptée avec passion, avec fidélité. Elle avait à ce moment-là un petit chat de 8 à 9 jours qui n'avait pas encore les yeux ouverts. Et puis il a fallu que je reprenne ma tournée et je suis repartie le lendemain. Alors au bout de quelques temps, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me disait qu'elle était bien désolée que la chatte, quand j'avais été partie, elle était partie malgré une grande couche de neige. Elle était partie me chercher partout où elle pouvait, dans le village et dans les jardins, et sans doute très loin, elle était partie me rechercher. Et puis elle ne m'avait pas trouvée. Et elle a laissé mourir son petit, ce qui est rare chez une chatte, surtout chez elle. Elle a laissé mourir son petit, et comme elle ne m'a pas trouvée, elle est rentrée visiblement désespérée. Mais elle a bien consenti tout de même à vivre, mais elle m'avait préféré à son petit chat, et c'est une chose que, heureusement, je n'ai pas vue deux fois dans mon existence ni dans celle de mes chattes.
C'est le contraire de Gus, là, c'est le chat qui va retrouver son être humain. Ça parle aussi de confiance, Gus. Il y a d'ailleurs un exercice de confiance avec un des enfants qui attrape un ballon que vous allez faire éclater. Et ça, il est juste derrière le ballon, donc il faut qu'il ait très confiance en vous. Et vous dites, la seule personne que j'ai touchée, t'inquiète pas, c'est mon père. C'est vrai ?
Eh oui, Sophie Sindy m'a pris comme victime pour régler ses problèmes. Non, je blague.
Vous avez fait trop confiance.
C'est vrai. Un jour, il m'a coupé le bout du doigt avec son fouet.
Il faut dire à ma décharge que c'était les premières d'un spectacle qui se passait il y a 20 ans dans la rue de manière extrêmement sauvage et auquel déjà mes parents étaient gentiment venus assister. Et à l'époque, je faisais la manche et j'avais du mal à arrêter trois personnes. Donc quand j'en avais deux qui s'arrêtaient bienveillantes... et le porte-monnaie bien rempli, c'était déjà pour moi une grande victoire. Donc ils étaient là au tout début, et c'est vrai qu'un jour je l'ai fouetté. Donc je dis ça aux enfants, et j'ajoute pour continuer et achever de rassurer l'enfant, mais je te rassure, si j'ai touché mon père, c'était sans doute pas un hasard. Mais effectivement, il y a tout un passage. Bon, ça ce sont un peu des choses récurrentes chez moi, mais sur la confiance, parce que je dis aussi à l'enfant, tu sais, moi-même en ce moment j'ai pas confiance en moi, mais toi il faut par contre que tu parviennes à me faire confiance, et je lui dis même la chose la plus difficile techniquement que tu vas avoir à faire, et il sait toujours pas de quoi il s'agit, il sait toujours pas que je vais bientôt brandir un fouet de 3 mètres en cuir qui crée une détonation absolument effrayante. Je lui dis la chose la plus difficile que tu vas avoir à faire, c'est juste de me faire confiance, et je prends ce petit temps préalable, et en une centaine de représentations, j'ai pas encore eu de désistement. Alors j'ai eu toutes sortes de danses complètement folles, parce que l'enfant derrière le ballon, quand j'arrive pas à le... a éclaté le ballon du premier coup, je suis contraint de refouetter, et ça crée vraiment des grosses détonations. Donc j'ai eu des danses magnifiques d'enfants qui ont un peu peur, mais qui rient, mais qui en même temps essayent de contrôler cette peur. Mais nous y sommes toujours parvenus, et j'ai toujours cru lire dans le regard et sur le visage de l'enfant qui voyait le ballon enfin éclater une espèce de satisfaction, comme s'il avait gagné quelques petits points de confiance que j'espère il pourra ensuite emmener avec lui.
C'était un enfant confiant, Sébastien Barrier, Claude Barrier?
Oui, je pense, assez confiant. Hein, mais ceci me fait rebondir très rapidement sur une histoire vraie que j'ai vécue en tant qu'éducateur avec un garçon brillant qui était en famille d'accueil, mais qui foutait tout en l'air, où en équipe, on a décidé de lui faire confiance sur le fait qu'il avait besoin d'aller jusqu'au bout d'une éventuelle rencontre de sa mère. C'est bien qu'un matin de février, je suis monté avec lui dans un train pour aller à Narbonne-Plage, 40 000 personnes l'été, 250 l'hiver, d'où il avait su qu'une carte de sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 6, 8 ou 10 ans, qui était disparue, elle envoyait toujours cette dame une carte dans une famille d'accueil qui accueillait des demi-frères, demi-sœurs. On arrive là-bas, par où se jeter un beau matin de février pour avoir une piste. Authentique, hein, je vous dis, c'est une histoire vraie, sidérante. Je m'en vais à une station-service, le seul commerce ouvert. Je rentre avec le garçon, je vois une dame et je lui dis, voilà, je suis éducateur, j'accompagne un enfant qui peut penser que peut-être sa mère habite par ici. Elle me dit, comment s'appelle cette dame? On avait un nom et un surnom. Elle me regarde, elle garde le garçon et elle me dit, je puis vous parler à vous tout seul? Le garçon sort et elle me dit, vous pensez si je la connais cette... Et là, il y a un gros mot qui sort. C'est avec elle que mon mari est parti. Bon, mais à partir de ce jour-là, le garçon est resté 8 jours avec sa mère. Nous avons fait le pari de le laisser vivre un temps avec sa mère. Il est revenu. Et la phrase qu'il m'a dit dans mon bureau, 16 ans, hein, on l'avait laissé, je l'avais laissé là-bas avec un peu d'argent, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Il m'a dit, jusqu'à présent, je n'étais qu'un caillou sur un tas de cailloux qui attend un coup de pied pour retomber dans le fond. Maintenant, ça y est, je suis en haut et je marche. On avait pris le risque de lui faire confiance et à partir de ce moment-là, tout s'est ouvert, il s'est remis en confiance avec la famille d'accueil, il savait ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas attendre de sa mère. Le faire confiance, le Gus qui tout d'un coup, à qui on fait confiance. Bon, voilà, petite anecdote.
Avant de continuer, peut-être qu'on va écouter des poèmes.
Plaisir.
En musique, vous, c'est pas un chat qui est entré dans votre vie, Sabine Appart, c'est un livre de Ronsard.
Oui.
Il est arrivé comment?
En fait, je l'ai trouvé dans ma rue. J'ai trouvé un recueil dans ma rue et je me suis baissée pour le ramasser, un peu par curiosité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer de la musique, en fait, avec mon piano.
Et pourquoi ça vous a donné envie de musique, les mots que vous avez lus?
Non, en fait, il écrit des sonnets et c'est tout de suite très musical. C'est une structure que j'ai trouvée très facile à mettre en musique, en fait. C'était très naturel, en fait. Chaque sonnet avait sa musique qui découlait naturellement pour moi.
Le chat prend le poisson rouge entre ses dents et il le remet dans le bocal.
Sabine Appart commence le piano à 8 ans au conservatoire, essaie de mêler son amour de la musique classique et des chanteuses, chanteurs français. Ce sont les mots de Ronsard qu'elle met en musique, et c'est comme une pointe qui vient toucher la colonne vertébrale et la relever doucement. Quand l'âme est mélancolique, elle revient se caler dans le présent. Voilà deux poèmes.
Je suis Sabine Appart, nous sommes en studio avec Sébastien Barrier, son père Claude Barrier. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
Le premier jour du mois de mai, madame, dedans le cœur, je sentis vos beaux yeux, brun, doux, courtois, riant. qui dans glaçon ferait naître une flamme. De leurs beaux jours, le souvenir m'enflamme. Et par pensée, j'en devins amoureux. Au de mon cœur, les meurtriers bienheureux. Votre vertu, je sens jusque en l'âme. Si fort au cœur, votre beauté me poigne. Que je devais jouir de votre vue plus longuement ou bien ne la voir point. Certes, mon œil fut trop aventureux de regarder une chose si belle, une vertu digne d'une immortelle et dont amour et même amoureux. Depuis ce jour, je devins langoureux pour aimer trop cette beauté cruelle. Cruelle non, mais doucement rebelle à ce désir qui me rend malheureux. Malheureux non, heureux, je le confesse, tant vaut l'amour d'une telle maîtresse. Pour qui je vis, à qui seule je suis, en lui plaisant, je cherche à me déplaire. Je l'aime tant qu'aimer je ne me puis, bien que pour elle amour me désespère, bien que pour elle amour me désespère.
Mon père est né le 13 mars 1942 dans une ferme de Mayenne. Ses parents étaient fermiers et louaient la ferme et les terres pour y travailler. Il est né jumeau, mais sa sœur n'a pas survécu à sa première année. Ils furent néanmoins 8 enfants. La famille était très pieuse et mon père entra très tôt au petit séminaire. Il marchait dans les pas de son grand frère Michel, devenu curé, en pensant un jour le devenir à son tour. Ce qui n'arriva pas, j'en suis la preuve vivante.
C'est le tout début d'une petite biographie improvisée pour votre père, Sébastien Barrier, que vous nous avez envoyée. Qu'est-ce qui vous a fait abandonner le séminaire, Claude Barrier ? Vous n'étiez pas tout à fait d'accord tous les deux ?
Ah ben moi, ma version, je la tiens, puisque c'est moi-même qui l'ai vécu. Tout en étant très croyant et étant avec des parents qui vivaient ce qu'ils croyaient, j'ai eu peur pour moi que de trop vite me conformer et de faire le job correctement, mais j'ai eu plus envie d'aller vérifier au grand air si je pouvais pas vivre ça autrement avec d'autres personnes, notamment en commençant par un travail de manœuvre dans le bâtiment, mettant une pause dans mes années après 4 années de grand séminaire, faisant une pause et un temps de réflexion. Au terme de quoi je me suis plus engagé dans l'action syndicale, j'allais dire comme papa. Et à partir de là, j'ai pris différentes bifurcations. Et puis quand sont arrivés les enfants, j'ai été amené à changer de métier. Et voilà. Et maintenant, je suis plutôt très en interrogation par rapport à cette question de l'au-delà. Respectueux des croyances, mais très en interrogation.
Et dans la liste que vous avez faite, Sébastien Barrier, de ce que je tiens de mon père, il y avait son côté curé.
Oui, parce que... Alors, je ne sais pas s'il a un côté curé, mais peut-être dans... Parce qu'en tout cas, moi, j'ai toujours su qu'il aurait dû l'être. Enfin, qu'il était parti pour l'être. S'il fait des grimaces à côté, de belles et tendres grimaces. J'ai toujours su que son frère l'était, ce qui est incontestable. Et je me suis souvent retrouvé dans mes spectacles à me dire, mais tiens, c'est marrant, cette communauté de personnes... réunis face à moi, auxquels je suis en train de parler, que je suis en train de réunir, quand on me demandait d'écrire mes premiers spectacles étaient ces temps improvisés dans la rue. À un moment, c'est quelqu'un qui m'a dit il y a peut-être 15 ans de cela, ah, ce que tu fais, c'est une célébration du présent. Jamais j'aurais pensé les choses avec de tels mots, mais ça m'allait vraiment bien. Quand on m'a dit ça, j'ai pris ça. D'abord, je me suis dit, mais quel beau compliment. Puis après, je me suis dit, mais quel beau métier, finalement. Si je suis en train de célébrer le présent, c'est super, je suis à ma place et je vais continuer. Et c'était des spectacles beaucoup, beaucoup moins écrits, des très improvisés, qui, encore une fois, se tenaient le plus souvent dans la rue, où je faisais un groupe qui n'avait pas prévu de venir. Quand je faisais la manche, c'était aussi souvent sur les parvis des églises, parce que ce sont des endroits propices à la réunion d'êtres humains ensemble. Et donc, depuis ces années-là, je me suis toujours dit qu'il y avait forcément des choses communes entre la fonction, le métier de curé et le mien. Et j'ai continué à filer la métaphore. Et alors, je me prends pas pour un curé. Moi-même, je suis pas allé au séminaire, ni au petit, ni au grand. Nos parents nous ont proposé, à mon frère et moi, d'aller au catéchisme si on le voulait au Mans, mais on
n'a pas baptisé.
Pas baptisé, bien sûr. Mais nous avons tous les deux décliné. On allait faire un tour là-bas, voir un peu à quoi ça ressemblait, puis on a dit non merci, on va plutôt continuer à faire les trucs entre nous, de manière laïque. Mais quand même, pour moi, il y a quelque chose dans les prises de parole qui ressemble au travail d'un curé.
Il y a quelque chose autour de la parole qui est très fort aussi, j'ai l'impression, dans la famille, parce que quand vous êtes arrivé, on a tout de suite parlé de est-ce qu'on parlera beaucoup, est-ce qu'il y aura des silences, ou en tout cas la parole, elle est au cœur de votre relation, j'ai l'impression. Et vous, je crois, Sébastien Barrier, quand vous étiez enfant, vous parliez trop, ou en tout cas, les mots, vous étiez un peu bègue. Les mots, ils s'entrechoquaient parce qu'il y avait une urgence de dire qui peut-être les faisait sortir tous trop vite et tous collés les uns aux autres. Dans la parole, il y a quelque chose, j'ai l'impression, je sais pas comment ça s'est transmis entre vous, comment ça s'est partagé au fil des années, mais c'est aussi le cœur de vos spectacles. Au-delà de voilà cette célébration de la parole qui est transmise, il y a quelque chose de fort autour de ça.
Mais ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est que la maison dans laquelle j'ai grandi, j'allais dire la maison de mes parents, sauf qu'elle ne leur appartient pas. Mais la maison dans laquelle j'ai grandi était un lieu de parole, mais qui n'était pas tant celle émanant de mes parents que celle émanant des personnes qui venaient se confier à eux pour parce qu'elles n'allaient pas bien, en fait. Donc mes parents étaient des grands écoutants. Et autant j'ai hérité de leur art de la parole, sans doute, mais parfois je m'inquiète de ne pas avoir hérité, même si j'ai les grandes oreilles qui sont typiques des gens de la lignée de ma mère, mais je m'inquiète parfois de ne pas avoir hérité d'un tel talent d'écoute. Et du coup, il y a cette écoute, il y a cette parole des autres, et puis il y a leur parole à eux. C'était deux personnes qui œuvraient quand j'étais ado, moi, dans le monde de la relation, du soin, puisque ma mère était enseignante à l'école d'aide-soignante, enfin, elle dirigeait l'école d'aide-soignante, qui est un lieu dans lequel elle croisait beaucoup de personnes en bifurcation, elles aussi. Et ma mère et mon père ont eu des parcours à bifurcation, mais moi, bizarrement, je m'obstine et je m'entête, c'est peut-être ça le problème, à continuer au bout de 25 ans à faire du spectacle, et j'ai pas encore fait ma propre bifurcation, à moins que, et j'espère que ce soit le cas, à moins que Gus, par rapport à mes tentatives précédentes, soit déjà une espèce de bifurcation dans la manière de raconter les histoires. Mais à l'enfant que je convoque sur scène, parce que je n'invite pas l'enfant qui tient le ballon, je lui laisse pas le choix, c'est un bénévole forcé, je lui rappelle parfois, quand j'y pense, que quand je lui demande quel métier il voudrait faire à l'avenir, je lui précise bien que c'est une question, quel métier. Alors à l'écrit, à l'oral, on l'entend pas, mais c'est quel avec un S et métier avec un S aussi. Autrement dit, je lui dis, tu peux faire plusieurs métiers dans ta vie. Pas parce qu'il faut faire plusieurs métiers, mais parce que tu auras plusieurs talents. Tu n'as pas qu'un seul talent. Et j'ajoute parfois, quand j'y pense, mais j'y pense pas toujours, c'est pas des cordes à ton arc que tu as, c'est des cordes à ta harpe. Tellement il y a de cordes, ou comme autant qu'il y en a sur le piano de Sabine. Donc j'insiste aussi sur le fait qu'on peut faire plusieurs choses et qu'on peut comme ça circuler. Mais ce qui n'a pour autant jamais été mon cas.
Je préfère la mer, la vue de la mer et l'odeur de la mer aux mots « la mer ». Alors, si je ne suis pas dans un endroit poétique en moi-même assez fort pour pouvoir me passer de la nature, disons. Et en fait, je ne peux pas non plus me passer des êtres humains, parce que ce n'est pas que j'en ai besoin, mais c'est une manière de me rappeler à l'ordre. Je peux dire qu'il n'y a pas d'île déserte, n'est-ce pas ? On ne peut pas vivre sur une île déserte, parce que il y a toujours vendredi qui arrive, on n'est pas... Alors, vendredi, pour moi, c'est la nature humaine. Par conséquent, il n'y a pas d'hierarchie dans ma quête et il n'y a pas d'hierarchie non plus dans la langue. Parce que, je dis qu'on écrit comme on peut, c'est vrai. Et il faut dépasser ses limites pour écrire comme on peut. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut pour faire ce qu'on fait. Parce qu'autrement, on ne le ferait même pas. Je veux dire par là que c'est déjà extraordinaire de pouvoir tracer des lignes et les montrer aux autres. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et surtout qu'ils les récupèrent. Pour nous dire après certaines choses que nous ne savons pas. Parce que l'écrit n'a pas d'équivalent dans l'existence. C'est pour ça d'ailleurs que faire des entretiens et parler comme ça est extrêmement douteux quant à l'efficacité, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Je pourrais vous dire ce temps-là dans ma vie, mais pas par l'entretien. Je ne peux pas ça. On ne peut pas poser une question à quelqu'un sur sa vie. C'est la vie qui répond, c'est pas... Autrement dit, on ne peut pas couper la vie en morceaux et on ne peut pas la faire mourir de temps en temps pour la décrire et pour l'expliquer, parce que c'est un peu la faire mourir. Alors le langage, là, est une chose absolument liquide, fluide, qui risque de perturber ce discours, qui est un discours silencieux, qui est un discours rarement interrompu. Écrire, c'est évidemment rayer la vitre pour moi, je raye un peu la vitre.
Vous avez reconnu la voix de Georges Perros, Sébastien Barrier, quand il parle de comment se saisir de la vie dans le langage, dans l'écriture, il dit c'est la vie qui répond, on peut pas la couper en morceaux, on peut pas. Comment vous vous saisissez de la vie justement, parce que dans vos spectacles il y a beaucoup de fiction, mais beaucoup de choses réelles. Vous travaillez aussi avec le présent. Vous parliez toujours tout à l'heure de confiance. Le spectacle, j'imagine, est différent si on l'a ou si on l'a pas. Comment on se saisit de la vie en la laissant au centre, sans trop l'abîmer ?
Ben, j'aimerais bien le savoir, surtout en ce moment. Quand je parlais de célébration du présent, c'était en fait un moment où je me mettais en disposition, en public, d'être attentif à tout ce qui survenait. Et j'arrivais, aidé de ce petit bagage de paroles que mes parents m'avaient transmis, j'arrivais à en faire matière à texte, qui ne finissait jamais par s'écrire, c'est-à-dire ni par se fixer, ni par se retrouver un jour couché sur le papier. Après, il y a eu, dans la continuité de mon parcours, il y a eu d'autres étapes intermédiaires où j'étais entre l'écriture et puis l'oralité, où j'étais dans les tentatives orales qui finissaient par prise de notes, par faire une espèce de texte, où j'étais dans une recherche... perpétuel à chaque représentation. Alors je dis pas que je suis un chercheur fou, je dis juste que j'ai pas le courage de travailler entre deux spectacles et que du coup je ne travaille que pendant le spectacle. Et ça a ses limites en fait, et ça a aussi ses avantages. Mais du coup cette façon de faire me permettait à un moment d'avoir un texte ultra précis en tête, complexe pour moi en tout cas, et précis, plus précis que si je ne l'avais écrit et appris par cœur, puisque j'avais écrit par cœur en le disant. Et puis après, il y a d'autres étapes où ce texte-là, je m'en débarrassais en cours de route, et puis j'en trouvais un autre, et enfin, c'est assez compliqué. Et puis là, Gus, c'est une autre étape dans ma vie, donc peut-être que c'est en cela qu'il y a une petite bifurcation, c'est que j'ai eu l'impression d'écrire avant de jouer. Mais on a répété en public. Donc on a répété pendant un an au contact, comme si on était dans un laboratoire, mais en présence, devrais-je dire, d'enfants, pour faire émerger cette parole. Et puis entre ces séances de recherche un peu in vivo, en direct, devant des enfants qui, pour certains, ont vu des choses plus qu'inabouties, et merci encore à eux d'avoir supporté cela, ben, y a un texte qui est arrivé. Voilà. Après, écrire comme Perros, même si chez Perros, alors j'adore écrire, c'est un peu rayer la vitre, enfin finir... Il vient de dire des choses tellement essentielles et finir par dire, écrire, c'est un peu rayer la vitre. J'adore, évidemment. Et puis quand j'entends Perros, moi j'entends son fils. J'ai pas connu le père, mais je connais le fils. Et ils ont une voix tellement proche que c'est toujours une émotion redoublée de l'entendre. Mais Perros écrivait, lui. On sait que ça lui coûtait, parce qu'il le raconte aussi que ça lui coûtait. On sait que ça sortait pas tout le temps. On sait qu'il écrivait par bribes, par notes. Ce qui me fascine d'ailleurs dans sa manière d'écrire et me rassure parfois un peu aussi. On sait que c'était difficile d'écrire pour lui, mais sauf que lui, il parvenait. Moi, c'est pour ça, quand j'ai commencé cette réponse, peut-être qui va finir par être un peu trop longue maintenant, par j'aimerais bien le savoir, c'est que sincèrement, je ne le sais pas encore, Et ce sont les questions auxquelles je vais me confronter dans les prochaines années de mon existence.
Sabine Appart, c'est quoi un prodigieux cafard ?
C'est
le titre du prochain morceau.
C'est une sorte de capture de la mélancolie, ce morceau. Il m'est venu en 2 minutes. Hein. Donc, c'est une forme de capture d'un sentiment global qui oscille entre une joie et une tristesse, en fait. C'est un tango, donc voilà.
Peut-être que ça fera écho à la mélancolie dont on parlait.
Mais oui, début, oui. Je me dis, mais qui a préparé cette émission ? Comment de telles coïncidences peuvent-elles surgir dans le studio ? Et je viens de comprendre que tout cela est préparé, en fait. Mais j'ai hâte d'entendre ça.
Un prodigieux cafard, donc. Sabine Appart. On a été rejoint par 2 musiciens.
Je suis accompagnée de Sébastien Gastine à la contrebasse et Bastien Bonnefond à la batterie.
Prodigieux cafard, errant dans le noir, me prenant le dard, sans le moindre égard, fabuleux ennui, qui meurt et qui lui, comme un pissenlit, qu'on cueille la nuit, cafard ennui, brouillard mélancolie, terribles amis, enfants maudits, cafard ennui, brouillard mélancolie, parfaits ennemis, vertu transie, étonnant brouillard.
Sébastien Barrier, c'est quoi le petit bout de feuille que vous avez arraché au début de l'émission ?
C'était pour pas oublier. C'est mon anecdote maintenant. Alors que nous jouions un spectacle qui s'appelait à l'époque Chunky Charcoal, dans lequel je parlais de la perte, il y avait un grand panneau noir, un grand panneau blanc derrière nous, recouvert de papier, qui faisait 9 mètres par 3. Et pour le dire vite, au début, je listais une centaine de mots liés à la perte, tout ce qu'on peut perdre, tout ce que j'avais listé en tout cas. Et puis, dans cette longue liste, je disais Abel. Et alors que le dessinateur qui en fait saisissait au vol certains des mots pour écrire cette liste entendait Abel, il arrêtait de faire cette liste et puis partait sur l'extrémité du panneau pour écrire en grosses lettres capitales, alors qu'il écrivait jusque-là en petites lettres minuscules, cet énorme Abel. Et puis, j'expliquais pas qui était cet Abel. Et puis, le panneau finissait par être noirci complètement de mots relevés par le dessinateur Benoît Bonne-Maison-Fitte. Et cet Abel restait en haut, mystérieusement. Et était lié dans le spectacle à une histoire de grand-père, mais qui n'était pas le mien. Donc, personne ne savait qu'il s'agissait du mien. Et alors que mon père était là ce soir-là au spectacle, et alors surtout que mon père depuis 20 ans s'entêtait, alors que je lui disais que ça se faisait pas, à dire presque parfois depuis la salle en assistant au spectacle, je suis le père de Sébastien, je suis le père de Sébastien, je suis le père de Sébastien, tant il était fier de ce que j'essayais de faire sur scène. Et bien ce jour-là, à la fin du spectacle, ils sont restés avec ma mère assis longtemps devant le panneau, tout seul dans la salle, Et puis quand il est ressorti, il disait à tout le monde « Je suis le fils d'Abel ». Voilà, et c'était la première fois qu'il se présentait autrement.
Et vous dites tout le temps, toujours encore aujourd'hui, Claude Barrier, je suis le père de Sébastien Barrier?
Non, pas spécialement, ça peut m'arriver de le dire. Oui, je n'en ai pas honte, bien au contraire, mais je suis aussi le père de Mathieu. Hein, et puis je suis Claude Barrier, et puis voilà. Je fais avec, j'essaie de faire avec ce que l'on m'a transmis et ce que j'ai transmis.
C'est l'excitation dont vous avez hérité, Sébastien Barrier, c'est à la fin de la liste que vous avez faite au début de l'émission.
Bah là, je l'ai briefé, alors du coup, il paraît pas excité, mais tout à l'heure, encore au restaurant, quand ce midi, je lui ai demandé quelques précisions, en pensant à ce moment qu'on passera ensemble, mais aussi à ma vie en général, puisqu'il y a plein de non pas de zones d'ombre, mais de choses que j'ignore. Ils sont 8 frères et sœurs, donc il y a évidemment des histoires qui s'étirent et sont complexes. Mais je voyais parti dans un grand récit que j'écoutais, bien sûr, et qui me passionne, puisqu'il me concerne au premier plan. Mais je voyais son excitation, mais il est très excité dès qu'il est en présence d'un tout petit auditoire. Et là, nous suffirions largement à déclencher cette excitation. Donc oui, j'en suis parfois, moi aussi, habité. Ou parfois, disons qu'elle m'envahit aussi. Et je pense que je tiens plutôt ça de lui que de ma mère.
Donc finalement, vous savez écouter Sébastien Barrier?
Mais j'apprends lentement, c'est lent, j'apprends, oui, mais ils m'ont appris aussi un peu à écouter, mais sûrement pour faire les spectacles que j'essaye de faire, il faut que je sois capable d'observer un peu autour de moi, mais c'est ce que j'ai tellement de mal à faire en ce moment, il y a parfois des moments où peut-être on a besoin de se replier, et là c'est ce qui m'arrive, donc j'observe plus. Après récemment, quelqu'un m'a dit, mais t'inquiète pas, même si tu n'observes pas, tu continues d'enregistrer, et tout ce que tu vois, ça ressortira, mais j'en doute un peu, donc... Mais voilà, mais il me coûte un peu plus d'écouter en ce moment qu'à d'autres moments, mais tout ça oscille, encore une fois.
D'un chat qui entre dans nos vies pour traquer la solitude et la mélancolie des humains qui l'entourent. Sébastien Barrier, le spectacle s'appelle Gus. C'est au Théâtre du Montfort à Paris du 12 au 23 février et puis en tournée en mars à Loos-en-Goël, à Douai, en avril à la scène nationale de Sénart. Sabine Appart, la souterraine a mis en ligne Jungle. Sabine Appart chante Ronsard, 8 poèmes mis en musique qu'on peut écouter. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Philippe Mercher et Fabien Capel. Vous allez rentrer en camion tous les deux, Sébastien et Claude Barrier?
Non, je vais le mettre à la gare. Je vais le déposer demain au train et il va repartir retrouver ma mère.
Ce sera un voyage silencieux.
Ouais, bah j'espère pour ces gens qui vont partager le wagon avec lui. Et moi, je reste au Montfort.
Merci de ta compréhension, mon fils.
Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.